Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Aujourd'hui, nous allons continuer la suite, l'enseignement sur, n'est-ce pas, les bénédictions de Dieu dans le temps présent. Les bénédictions spirituelles de Dieu, les bénédictions spirituelles de Dieu dans le temps présent. Qu'est-ce qu'on a reçu comme bénédiction spirituelle dans le temps présent? Vous avez ça sous vos fiches, hein? Donnez les fiches. J'espère que vous n'avez pas oublié à la maison. Vous n'avez pas oublié à la maison, malheureusement. Vous avez ça, tout ce que je vous dis maintenant, sortez vos fiches de la semaine dernière. Vous avez ça sous vos fiches, tout ce que je vais dire. Tout est dessus. Donc le travail est même en bonne partie à faire pour vous déjà. Tout se trouve sur les fiches. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est exactement ce que vous avez sur les fiches, avec des commentaires en plus. Donc, on lit Éphésiens chapitre 1, avec le verset 3, et on va mettre l'accent sur le passage du jour. Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté et le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, savoir réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de Dieu qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous avons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. On verra la suite après. Ce qu'on voit maintenant, ce sont les bénédictions spirituelles acquises en Christ dans le temps présent. Ou si vous voulez, après notre naissance, dans le temps présent. Qu'est-ce qu'on acquiert comme bénédiction spirituelle? Si vous lisez bien au verset 7, il est dit, en lui, donc en Christ, nous avons la rédemption. La rédemption. Par son sang, virgule, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Donc, quand nous naissons et que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons en lui la rédemption. Et qu'on chantait les chants de la rédemption. Redemption song, les chants de la rédemption. On a quelle la rédemption? La question que je pose, qu'est-ce que la rédemption? Qu'est-ce que la rédemption? Ouais, la mission de Christ qu'il a accomplie était une œuvre de salut, de rédemption. Le monde entier était sous la domination de l'ennemi, du péché et la mort spirituelle. Et Dieu a envoyé son Fils. Si vous voulez, la parole est venue chère. Emmanuel est venu, Dieu avec nous. Il est venu sur terre. Il est venu accomplir la mission de salut pour les hommes. Puisque nous le savons, que c'est l'âme qui pêche, qui meurt, et que le salut du péché, c'est la mort. et que la mort étant réservée à l'humanité, je parle de la mort spirituelle. La mort spirituelle ici, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait de ne plus être en communion avec le Seigneur, avoir sa paix et sa présence. Parce que la mort spirituelle, c'est l'absence ou l'absence, la communion avec Dieu, éloignement définitif de la grâce et la présence de Dieu. Donc quand Christ est venu, cette mort spirituelle qui planait sur l'humanité entière et qu'elle allait nous éloigner de lui pour toujours, Christ a pris ça sur lui. Il a pris la condamnation sur sa vie et il nous a accordé sa vie, donc il nous a racheté. Donc vendu au péché, condamné à la mort, il prend notre place. Il prend notre place à la croix, c'est pourquoi il est mort la mort la plus ignoble. Rappelez-vous que le seul empire sur terre qui condamnait ses prisonniers, les plus criminels, qui les pendait à la croix, c'était l'empire romain. L'empire romain était le seul empire qui condamnait ses prisonniers les plus récalcitrants ou les plus dangereux, qui les pendait à la croix. C'était le seul empire romain. Et voyez-vous que avant la venue de l'empire romain, il y a eu trois grands empires. Il y a eu quel empire? Vous les citez? L'empire quoi? Non, d'abord, l'empire babylonien. Ensuite, l'empire médo-perse. Et après, l'empire grec. Ces trois empires précédents ne crucifiaient pas leurs détenus. Les plus mauvais, ne les crucifiaient pas. L'empire romain était le seul empire qui a inventé la croix et qui crucifiait, n'est-ce pas, ses prisonniers les plus récalcitrants. Ceux qu'on a considérés comme les grands criminels. Et Jésus est né pendant le règne de l'empire romain, si on peut dire Amen. C'est la vision qu'a reçue Daniel. Quand Nebuchadnezzar a vu cette statue qui était faite de quatre parties, et qu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et a frappé la statue, non pas la tête, mais où? Les pieds. Les pieds, pour montrer que l'empire romain allait voir la naissance du Fils de Dieu. C'est pourquoi Hérode, qui était romain, cherchait à tuer Jésus également. Il est né pendant l'empire romain, et après quatre siècles, l'empire romain a été vaincu, et Christ s'est installé. Il veut dire, le nom du Seigneur, c'est ça a triomphé de toutes choses aujourd'hui. C'est le nom le plus connu, le plus beau. Alors qu'apparemment, cela aurait été impossible quand on considère les disciples. J'ai fait ce tour pour montrer que Christ est né au mort opportun. Il faut que cette mort ignoble s'accomplisse afin que la condamnation qui planait sur nous retombe sur lui. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Donc, il nous rachète la mort éternelle. Il prend notre place et nous donne la possibilité d'avoir le salut en lui. C'est pourquoi Simon, le prophète, le vieux prophète. Quand Marie et Joseph sont allés dans le temple pour présenter l'enfant Jésus, parce que c'était l'habitude qu'ils avaient en Israël de présenter un enfant, personne ne lui avait dit quoi que ce soit. La Bible déclare qu'elle avait été avertie, divinement avertie, ainsi que Anne également, la prophétesse. Et quand Simon a pris l'enfant qui avait 8 jours, le Saint-Esprit lui a parlé. Et Simon a dit, Maître, Seigneur, laisse pas ton serviteur, parce que mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Il apportera la rédemption à Israël, à ceux qui croient en lui, qu'on peut dire gloire à Dieu. Donc, Christ est venu accomplir une mission de rédemption, c'est-à-dire nous racheter l'esclavage spirituel, la mort spirituelle, la pauvreté spirituelle, afin que nos vies soient transformées et que nous soyons en communion avec Dieu le Père, ce qu'on peut dire Amen. Donc, quand nous sommes en Christ, nous avons cette bénédiction spirituelle. Et ce n'est pas rien. Beaucoup de rois, beaucoup d'empereurs, beaucoup de philosophes auraient voulu avoir cette grâce-là. Ils ne l'ont pas eu. Si l'histoire qu'on m'a racontée, que j'ai lue, est correcte, je pense que c'est correct. Pendant le règne de l'Empire soviétique, très puissant, vous savez, l'église officielle, orthodoxe, avec les grands prêtres, il n'y a pas de problème. Il y avait l'église clandestine qui se cachait parce qui n'adhérait pas à la philosophie soviétique, enfin, un communiste qui était persécuté. Et c'est ce que j'ai appris, que j'ai lu, à travers les brochures des églises clandestines persécutées, il semblerait que le président Brejnev doit être mort aux environs en fin 2000, en fin 70 ou début années 80. Il semble que Brejnev a demandé sous son lit de mort d'hôpital qu'on prie pour lui, qu'il demande des pasteurs qui prient pour lui. Et puis, on a envoyé bien sûr les officiels. Il a dit non, il ne veut pas les officiels. Il veut ceux qu'on persécute là, ceux qu'on cherche, qu'on tue là, c'est eux qui veulent. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a la portion de Dieu. Et ils ont pu attraper quelqu'un qui est venu et qui a annoncé l'évangile. Et il semblait que Brésil est mort en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Je dis que je l'ai lu dans un document écrit par l'église clandestine dans l'époque. Donc si ce qui a été dit est vrai, je crois que vous voyez que même dans le monde entier, il y a eu une attente et que des rois ont voulu avoir cet avantage-là. Donc quand tu es quelqu'un d'ordinaire comme nous, et que tu as cela, c'est une grâce particulière, c'est une bénédiction particulière. Mais on n'a pas l'impression que c'est une bénédiction particulière parce qu'on pense que la bénédiction, c'est avoir une grosse voiture, des grandes maisons, de grands biens, avoir un jet privé. Non, ça ce sont les bénédictions matérielles qui sont périssables. Il y a les bénédictions spirituelles qui sont supérieures aux bénédictions matérielles et financières. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on est tous d'accord ce matin? Moi-même, je veux les bénédictions matérielles. Et je veux que vous en ayez. Je prie pour vous pour ça, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel, il faut dire amen avec moi. On laisse ça pour glorifier Dieu, on laisse ça pour faire du bien à nos familles, laisser de l'héritage à nos enfants, à nos parents, construire des belles maisons, habiter des belles maisons, être à l'aise et surtout soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'évangile puisse prospérer. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel, ça c'est l'accessoire. Le principal, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. D'abord ça. Or, il est dit ici qu'en Christ, nous avons la rédemption. Dis à ton voisin, j'ai la rédemption en Christ. C'est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir déjà. La rédemption en Christ. Et continue, il dit ceci. Donc, c'est ce qu'il a expliqué. Il dit que nous avons la rédemption. Par son quoi? Par son sang. Donc, par sa mort, on a la rédemption. Par la mort de Christ, par son sang, on a la rédemption. Et même virgule. Et puis il continue. Il dit, nous avons le pardon des péchés. Ouh! En Christ, le pardon des péchés est une grande bénédiction. Savoir que quand nous péchons, nous pouvons être pardonnés. Ça n'est de rien. Mais savoir que quand nous péchons, ce qu'on considère comme un grand péché, un gros péché, pour les hommes ou devant les hommes, quand nous le commettons, et que nous reconnaissons qu'on a péché contre Dieu, quand nous nous répandons, nous demandons pardon, des fois en pleurant, Seigneur, j'ai péché contre toi, la Bible déclare que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous effacer nos péchés et nous effacer toutes nos iniquités. Ça veut dire que pour Dieu, quand il nous a pardonné, il met ça dans l'oubli de l'océan. Ça veut dire que chez Dieu, le péché n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il a effacé ça, c'est terre miné. Dis à ton voisin, le pardon des péchés est une bénédiction. On dirait qu'on ne croit pas à ça. Jésus l'a montré à la croix. Il a montré ça à la croix. À sa gauche, il y avait un grand brigand. À sa droite, un autre grand brigand. N'est-ce pas? Les deux avaient été des criminels, mais vraiment patentés. Il y a un qui a dit, toi-même qui es le Messie, faut descendre comme ça pour savoir que tu es le Messie, rentre en toi. Il aussi commence à se moquer de lui. Il y a un qui a dit, ce que nous subissons aujourd'hui, nous le méritons. Quand nous ne sommes pas droits devant Dieu. Mais lui, il est juste et il n'a rien fait. Et là, il s'adresse à Jésus. Il dit, Seigneur, alléluia, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez ce criminel. Sa déclaration est remplie d'enseignement et de puissance spirituelle. Quand il dit, souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le brigand croyait que Jésus-Christ allait mourir. Qu'il allait ressusciter. Qu'il croyait qu'il allait régner comme roi. Alléluia. Que son règne allait être établi. Il avait compris toute la confession de la foi chrétienne. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Donc en disant, souviens-toi de moi, quand tu reviendras, il croyait que la mort de Christ n'était pas une mort en vain. C'était pas une mort faible. C'était une mort rédemptrice. Et qu'il allait ressusciter. Mais ce n'est pas tout. Qu'il allait ensuite régner pour l'éternité. Et quand le Seigneur a entendu ça, il a compris que cet homme avait la foi. Et il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que cet homme-là, ce criminel à la croix, a vu ses péchés être pardonnés. Il est passé directement, sans aucune transition politique, ni dialogue direct. Il est passé directement du péché, de la condamnation, directement au ciel. On peut dire gloire à Dieu. Et c'est une grande bénédiction. En clair, le pardon du péché existe bel et bien. Rappelez-vous Paul.
Paul avait été, à l'époque, ça s'appelait Saul. Il était vraiment rempli de haine pour les chrétiens. Il a participé à plein de choses qui sont mauvaises. Il a participé à l'assassinat au meurtre de Tienne. André, on dirait qu'il était co-auteur. Parce qu'il avait gardé, il n'est pas complice, il était co-auteur, il avait gardé les habits, il était d'accord, il était même actif, mais ce qu'il n'a pas pris de pied pour lancer, il était co-auteur. Or, André, le co-auteur et l'auteur sont une la même peine. Mais quand cet homme-là a été rencontré par le Seigneur, il a rencontré sur Damas, il est devenu le plus grand apôtre. Ses péchés lui ont été pardonnés. Et pourtant, il a participé au maître d'un homme de Dieu. En clair, le pardon du péché est une bénédiction. Je ne le dis pas pour encourager les uns les autres à dire ah, parce que Gagui dit que le pardon du péché est une bénédiction. Donc, on doit aller. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant parce que dès que je le fais, je demande pardon à Dieu, je suis pardonné. Non, je ne dis pas ça. Si vous le faites, vous manifestez ici la nature ancienne, la nature pécheresse, ce qu'on appelle, la Bible appelle le vieil homme. Vous manifestez le vieil homme et par conséquent, vous mettez sous le règne, la domination de la loi, de la mort et du péché. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, en clair, j'insiste, ça paraît, ça ressemble à des choses simples, mais c'est tellement fondamental de savoir qu'en Christ, nous avons le pardon des péchés et que cela est une bénédiction afin que nos consciences soient libérées de toute forme d'accusation. Satan est un gros menteur qui crée des blocages et qui fait que même quand on a demandé pardon à Dieu, on a toujours ce souvenir qui revient constamment pour dire toi aussi tu parles aussi. Faut le dire, moi aussi je parle parce que le sang de Christ va pardonner, mon péché a été enlevé, mon péché est purifié, je suis en Christ, pardonné, libéré. Alléluia. Amen. Je peux continuer. Gloire à Dieu. En Christ aussi, nous avons la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est écrit où ça? C'est écrit au verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il avait, qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand le temps serait accompli, savoir réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Amen. Une bénédiction spirituelle que nous avons après la rédemption, le premier péché, nous avons la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Et c'est que les chrétiens, et c'est que quand l'intellectuel, comme vous par exemple, on n'aime bien pas les choses du mystère, etc. Parce que c'est juste sur ce plan-là que les clubs historiques réussissent à voir les gens. On dit, tu sais, il y a quelque chose, ce qu'on dit de la Bible, ce n'est pas tout à fait correct. Il y a un livre qu'on a écrit à côté, qui est caché. Mais c'est Dieu qui est bon, qui veut que tout le monde soit sûr. Pourquoi il va écrire des livres cachés, en secret, et puis ça va être réservé à des initiés? Pourquoi? Qui disent qu'ils ont peur, qui disent qu'ils sont les pratiquants de sociologie, qui font les choses des ténèbres, mais qui ne disent surtout pas que c'est parce qu'il y a une vérité qui est cachée quelque part. Non! La vérité, la Bible est accessible à tous. La Bible se vend partout. Les réunions de prière se font partout. Dans les hôtels, partout. On n'a rien à cacher. On ne fait pas d'initiation kabbalistique. On fait des choses claires parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ce qui est la vérité apparaît à la lumière. Et par conséquent, c'est public. On est d'accord avec moi? On peut dire gloire à Dieu. Très bien. C'est une parenthèse que je faisais. Donc, en Christ, nous avons la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. La connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi ce mystère? Le mystère, c'est ce qui paraît caché. Ok. Mais je vous dis maintenant que ce qui paraît caché a été dévoilé. Et qu'aujourd'hui, rien n'est caché. Parce qu'elle nous déclare que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Maintenant, quelle est la connaissance de ce mystère de sa volonté? Ici, on a la réponse déjà. Dans Colossiens chapitre 1, verset 25 à 27, vous avez la réponse, ce que l'apôtre Paul appelle qu'en Christ, on a acquis la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 27. On est sûrement sur le premier point. C'est tellement dense cette étude, ce séminaire-là. Je lis maintenant Colossiens 1, verset 5 à 27. On peut lire verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ, aux souffrances du Christ, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, c'est-à-dire c'est de l'Église que je suis devenu serviteur.
J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu.
Et il continue.
Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce mystère caché de tout temps, dans toutes les générations, vous a été révélé, dévoilé, c'est-à-dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Car auparavant, sans Christ, les gens étaient dans les ténèbres. Maintenant, Dieu a un temps opportun, au temps opportun, envoyé son Fils. Et il est venu. Et Jésus-Christ est la parole faite, je l'ai dit tantôt. Il s'appelle Dieu avec nous. Il s'appelle aussi le Père Tout-Puissant, Conseiller, n'est-ce pas? Prince de paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est son nom ça. Donc, ce que Dieu a prévu comme solution était comme caché. Et quand il est venu, c'était la réponse à ce mystère caché de tout temps et à toute la génération. Jésus a même dit ceci dans Jean chapitre 8. Que Abraham a voulu voir mon jour. Et il a fait quoi? Et il a vu et il s'est réjoui. Ça veut dire que Dieu avait caché cette solution-là. Parce que la mort planant sur l'humanité, Dieu a caché cette solution qui est venue au temps opportun, comme j'ai dit au début, pendant le règne de l'Empire romain. Donc Christ vient comme la solution. Et dit maintenant, en venant, il dévoile la volonté, dans le mystère de la volonté de Dieu, le Père, qui est maintenant que Christ vient comme la solution et réconcilie le ciel et la terre. Et dit maintenant que Christ en vous, c'est un grand mystère. Christ en vous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire Christ, c'est loin de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu en moi, la force de Dieu en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc je peux être sous la domination de la mort du péché, je suis en Christ, il habite en moi, son règne est en moi, la vie se trouve en moi et sa gloire se manifeste. Alléluia. Ça c'est un mystère. Et ça se trouve en nous. Donc quand je me promène, Christ est en moi. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je me déplace. Ce n'est pas moi d'avoir peur des hommes des ténèbres. Puisque le Christ habite en moi. C'était le mystère caché de tout temps que Dieu a révélé. Maintenant, regardez dans 1 Pierre. Là, je ne l'ai pas mis dans les fiches, mais ça me vient à l'esprit, c'est très important. Pour montrer que les prophètes, les patriarches ont voulu connaître ce mystère-là. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1. Verset 10. Verset 11. Je lis. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Dans la grâce qui était destinée, c'est Christ qui est le mystère caché de Dieu. Dans Éphésiens et Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. N'est-ce pas? Même dans 1 Pierre, c'est Pierre qui parle. Vous voyez que les deux sont différents, mais les deux ont la même révélation. Alléluia. La Bible est fantastique. Hein? Pierre est différent de Paul, mais les deux ont la même révélation. Pour dire que ce mystère caché, les prophètes ont voulu voir de tout temps qui était la réponse que Dieu a, le Père, apporté à l'humanité. Pierre écrit ici que les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée en fait de ce salut. De ce salut, Christ est le salut, c'est le mystère de Dieu caché. En fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ et qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Alléluia. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Oh, gloire à Dieu! J'espère comprendre la même manière que je comprends. Ce mystère caché de tout temps, que les prophètes ont désiré avoir, ils n'ont pas vu.
Moïse a voulu voir ça, il n'a pas vu ça. Même le grand prophète Esaïe a prophétisé que la jeune fille sera enceinte. Que un prophète, que la réponse viendra. Dans Genèse 49, verset 10, Moïse a dit que le Shiloh allait venir. Celui qui allait venir, il était prophétisé depuis la Genèse. Esaïe a dit que il va naître le fils de Dieu. Il a donné son nom, la description. On l'appelait ses frères. Donc Esaïe pensait que c'est à son temps là que le fils allait venir. Non, ce n'est pas son temps. Esaïe est mort. Un siècle est passé. Deux siècles sont passés. Cinq siècles, six siècles, sept siècles. Il n'a pas vu ça. C'est après sept siècles que ce qu'Esaïe a prophétisé a été révélé. Alléluia. Dans Michée 5, Michée a dit qu'il va naître un enfant. Il dit, dont les origines remontent aux temps anciens, au jour d'autrefois, au temps de l'éternité. Donc il espérait que cet enfant allait venir. Le fils de Dieu allait venir. Dieu a dit qu'ils étaient des ministres de ces choses. Donc les prophètes de l'époque ont espéré voir ce jour. Ils n'ont pas vu. Et c'est autant opportun que ce mystère a été révélé. Et c'est pourquoi même l'apôtre Pierre dit même que les anges désirent plonger leur regard et même apprécier et apporter la nouvelle de l'évangile. C'est pourquoi que Jésus-Christ est né, les gens sont venus, les anges ont chanté. Alléluia. Les anges ont chanté parce que c'était un privilège accordé exclusivement aux hommes. Dis à ton voisin, la connaissance du mystère, la volonté de Dieu m'a été révélée. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est un mystère. Parce que le Christ qui est venu de la part du Père, qui a créé les cieux et la terre, habite en moi. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on s'en rend compte? Comment le Dieu Tout-Puissant peut habiter en moi? Il habite en moi par son esprit. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3, on revient encore sur Éphésiens. Moi-même, sur cet aspect de mystère et de bénédiction, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Donc, en Christ, on a vraiment des bénédictions incroyables. Il ne faut pas les mépriser, il faut les apprécier et adorer Dieu, remercier Dieu pour cela. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 13, verset 3 à 13. Il dit la même chose. L'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 13. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu une connaissance du mystère. Par révélation. Et c'est ce que l'apôtre Paul a révélé tout à l'heure. Comme je viens de l'écrire en quelques mots. En le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les générations passées. Alléluia. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et l'apôtre Paul revient sur ça encore. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage. Alléluia. Les païens, ceux qui ne sont pas juifs, ont un même héritage. Forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Donc je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ, par le Christ Jésus, notre Seigneur. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance aussi. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. Amen. Donc, dit la même chose à l'apôtre Paul. Il révèle que ce grand mystère a été révélé. Et qu'aujourd'hui, les païens, c'est-à-dire nous, on a accès à la grâce de Dieu. On a accès au salut. On a accès au privilège de Dieu. Chers frères, chers sœurs, avant la grâce de connaître le Seigneur, est une bénédiction. L'apôtre Paul dit, c'est un mystère caché qui a été dévoilé, qui a été révélé. Gloire à Dieu. J'espère qu'on est conscient que c'est une bénédiction d'avoir Christ en soi, parce que c'est la révélation que Dieu a été accordée. Je me répète encore, l'apôtre Pierre le dit, les anges désirent plonger leur regard dans ce mystère. Les anges désirent apporter ce nom-là. Les anges désirent parler du Seigneur, mais ce n'est pas eux la que ça t'a accordé. C'est aux hommes créés à l'image de Dieu que ce privilège a été accordé. C'est pourquoi c'est une bénédiction spirituelle. Gloire à Dieu. On revient qu'on a Ephésiens chapitre 1. Donc vous voyez qu'on a une bénédiction spirituelle acquise en Christ, qui est la rédemption, le pardon des péchés et la connaissance du mystère caché de Dieu, la bonté de Dieu, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons également aussi notre bénédiction. Au verset 9 et 10, toujours dans Ephésiens. D'abord, même toujours dans le verset 10, en parlant de mystère, il dit que Christ a réconcilié les cieux et ce qui est sous la terre. J'ai voulu sauter cela, mais je vais encore l'expliquer. Quand Christ est venu sur la terre qu'il est mort, les cieux et la terre ont été réconciliés. Regardez. Le ciel avait été souillé. Quand l'ennemi a été précipité et ses démons étaient vraiment présents, c'est comme une souillure. C'est pas la Bible déclare dans Hébreu que Christ a fait l'aspersion de son sang. Elle a fait quoi? Il a fait par son sang l'aspersion du ciel. C'est écrit dans vos Bibles. Il a fait l'aspersion du ciel par son sang. Il a purifié le ciel. Rappelez-vous que les puissants des ténèbres bloquaient les prières. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais est-ce que les démons continuent à bloquer les prières des chrétiens? Moi, je crois que non. S'il a pris quelqu'un bloqué, c'est lui-même qui est bloqué dans son cœur, c'est tout. Alléluia. Parce que quand c'est mort, le voile était déchiré, l'accès du Père est rendu disponible par son sang, il a purifié les cieux. C'est pourquoi il a dit qu'il a réconcilié le ciel et la terre, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit ici. Les cieux et la terre ont été réconciliés. Le pouvoir de l'ennemi a été déstabilisé, renversé. Et aujourd'hui, en Christ, on a perdu la victoire parce que l'accès au Père était l'accès qui est rendu libre, disponible. Ma prière qui est adressée au Père va au ciel, elle est exaucée. Et si je suis exaucé, c'est pas à cause de Satan, c'est démon. Je ne suis pas exaucé, c'est parce que dans mon cœur, il y a l'incrédulité. Jacques le dit que nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. C'est pas ça? Dans le but de satisfaire nos convoitises. Il ne dit pas que c'est parce que le diable bloque nos prières. Je rappelle ça encore parce qu'on a ces enseignements dans nos têtes qui nous troublent. Je rappelle encore. Si on n'est pas exaucé, ce n'est pas à cause du diable ni des démons. Et vous en quoi avoir dans cette histoire-là? Christ a fait l'aspersion du ciel par son sang. Il a réconcilié le ciel et la terre par son sang. Il a un ministère de médiateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est le médiateur d'une alliance plus grande et plus excellente. Donc en lui, nous avons accès au Père. Un accès libre et gratuit. Le Saint des Saints est disponible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, comment le diable va s'interposer entre le Saint et le Saint des Saints pour bloquer ma prière? Il ne peut pas bloquer ma prière. C'était un peu dans le temps passé. Mais en Christ, le ciel a été purifié. On dit Amen. Les cieux ont été purifiés. L'accès du Père est rendu disponible. Maintenant, quand je prie, si je ne suis pas exaucé, c'est à cause de mes convoitises et de l'incrédulité de mon cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Jacques l'a dit aussi. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire nos convoitises. C'est écrit dans Jacques. Je veux qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on laisse Satan d'écouter, laissons-le se débrouiller à côté et faire tout ce qu'il a envie de faire. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que Christ, par son sang, nous a réconciliés avec le Père. Et on a accès à lui. Ma victoire est une victoire acquise en Christ. Ta victoire est acquise en Christ. Ta puissance vient de qui? De toi-même ou de Christ? Elle vient de Christ. Ma force vient de lui. Donc, tant que je suis en communion avec lui, je suis toujours victorieux. Il faut dire Amen. Je dis bien, tant que je suis en communion avec lui, en communion avec mon Dieu, je serai toujours vainqueur. Je marcherai sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra me nuire. Mais si je suis en communion avec lui, mais je suis fragile. Je suis ouvert à tout. Donc, ce n'est pas parce que le diable est puissant, c'est parce que moi, je me suis laissé ouvrir à l'ennemi. Est-ce qu'on se comprend? C'est d'accord, faites comme ça. Pour ne pas que vous ayez les sommets troublés pour vous dire, oh, quand tu pries, mon frère, ta prière n'est pas exaucée parce que certains viennent bloquer ta prière. Il faut faire 4 jours de prière. Ça, c'est faux. C'était vrai dans l'Ancien Testament. Puisqu'à les morts, le voile a été déchiré, le ciel est ouvert. Lisez la Bible. Alléluia. En tout cas, je lis la Bible. Hein? Il est dit, il a fait l'aspersion du sang du ciel par son sang. Il a réconcilié le ciel et la terre par sa résurrection. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et j'ai la grâce de Dieu et je triomphe. Le reste dépend de ma communion avec lui. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire encore. Gloire à Dieu. Et s'il vient contre moi, la Bible déclare que je mets en fuite parce que ce qui est à moi est plus fort et plus grand que ce qui est dans le monde. Maintenant, si moi je quitte Jésus, je me livre à l'ennemi par conséquent ou bien?
Je me livre à lui dans ce cas, il sera plus fort que moi, puisque je n'ai plus Christ à moi. Enfin, je me suis laissé complètement, j'ai quitté sa voie dans ce cas, je suis livré. Mais si Christ est à moi, je répète encore, s'ils sont en communion avec lui, je ne peux pas être vaincu, tu ne peux pas être vaincu. À moins que Dieu l'autorise pour sa gloire. On peut continuer? La parenthèse a été ouverte, elle a été fermée aussitôt. Verset 11. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Quatre déjà acquises en Christ. Nous avons un héritage. Nous sommes mis à part et nous avons un héritage. C'est un héritage spirituel. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il précise cet héritage spirituel. Romains chapitre 8, verset 17. Je lis. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ton héritage, c'est que nous devenons enfants de Dieu. On aura aussi eu l'occasion de voir petits enfants, jeunes gens, et puis les vieillards dans le Seigneur. Donc, c'est un héritage spirituel. Ça veut dire que je suis un enfant adoptif. Vous savez, quand un enfant n'est pas de vous, mais que vous l'adoptez par les voies légales, l'enfant devient votre enfant. Il acquiert les mêmes droits que vos enfants qui sont biologiques. Ou bien je me trompe. Puisque l'enfant porte votre nom. Il porte votre nom. Je parle de l'adoption légale. Hein, vous partez à la mairie, enfin, vous faites toutes les procédures devant l'État SEP, parce qu'il y a l'institution de l'État qui ordonne que tel enfant devient maintenant gadget. Par exemple, je peux devenir un enfant qui est. Il peut adopter un Américain, un Français, un Chinois, un Ivoirien, un Burkinabé, bref, il peut déjà adopter. Voilà. Et je suis la procédure de l'État. Je m'adresse aux institutions. Je dis que je veux avoir un enfant qui est un garçon, une fille. On fait la procédure. Et puis au bout de quelques temps, on m'accorde cette grâce-là. Donc l'enfant devient mon enfant. Ça fait 3 ans qu'il s'appelait Chin Chan Wang. On change son nom, il devient Gadi, Samuel, Eli, Roger ou bien prophète ou machin. C'est le nom que je veux. Il porte mon nom. Il est aussi mon héritier. En Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. On ne parle pas de tout ça. Je suis étonné qu'on ne parle pas de ces genres choses-là, mais qui sont si fondamentales. On ne parle que des démons et des satans, comment ils font. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas des choses qui sont si profondes où on dit aux chrétiens que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que je partage un héritage avec le Christ. Je suis héritier de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que pour l'instant, on voit comme au travers d'un miroir. Mais plus tard, nous le verrons face à face tel qu'il est. Dans la gloire, la puissance de Dieu, nous saurons qu'on a acquis en Christ la plus grande richesse, la plus grande gloire, la plus grande puissance, la plus grande autorité. En Christ, on a vraiment l'héritage de Dieu. Il faut dire Amen avec moi. Ça libère le chrétien de la peur. Ça le met à l'aise. Il marche avec assurance. Pourquoi? Mais parce qu'il est enfant de Dieu. Il est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc en Christ, quand on accepte Christ, on devient héritier de Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire laquelle bénédiction? Premièrement, on avait la rédemption par le sang de Christ. Le pardon de nos péchés. Ensuite, la connaissance du mystère de la volonté de Dieu, qui est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Christ est le salut promis qui est venu sur la terre, et sur le clou en lui. Ont cette révélation que désormais que Christ habite en eux, que Christ habite en eux, alors c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et quatrièmement, j'ai dit que nous avons en Christ l'héritage. N'est-ce pas? Parce qu'au départ, j'ai dit que quand Christ est mort, il a reconstruit le ciel et la terre, et en Christ, nous avons un héritage. Un héritage fait de nous, des enfants de Dieu. On verra plus tard que, parmi les enfants de Dieu, il y a les petits-enfants, après il y a les jeunes gens, et après il y a les vieillards. Vous avez ça dans Jean, dans un Jean, dans deux Jean, et pas de cela. Et donc le cinquième héritage, c'est que en Christ, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 22. On ne peut pas tout finir, mais je vais m'arrêter sur ce point-là, assez rapidement. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Non, c'est pas verset 15. C'est du verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Alléluia.
suivez le mot scellé. Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage. Oh, j'aime le mot gage. Qui constitue le gage de votre héritage. En vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aller doucement pour comprendre ces vérités fondamentales?
Et dit, en Christ, nous avons été scellés. Vous voyez, quand tu scelles quelque chose, c'est plus fort qu'un cachet. C'est plus fort qu'un tampon. Vous êtes d'accord avec moi?
Quand vous avez une lettre officielle d'une nomination ou bien des questions de confidentiel, le directeur, le président, enfin celui qui doit vous nommer, il prend aussi le président, c'est un magistrat, il signe, n'est-ce pas? Et puis il met un cachet, n'est-ce pas? Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? On prend une enveloppe. Et puis on prend un fil, c'est pas ça? Et puis on fait quoi? On attache. Et on dit que c'est scellé. On ne doit pas l'ouvrir. Il faut que ce soit le propriétaire ou bien le destinataire qui est le seul à l'ouvrir. C'est pas ça? On dit que c'est scellé. C'est spécial. Quand quelque chose est scellé, c'est spécial. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Parce que c'est scellé. On dit que c'est scellé pour quelqu'un. Alléluia. En Christ, on a été scellé par le Saint-Esprit. Il y a un cachet de Dieu. Il y a le cachet de Dieu sur moi. Le sang de Christ est sur moi. C'est le cachet de Dieu. Et maintenant, par le Saint-Esprit, je suis scellé. Amen. Donc, le sang de Christ est mon cachet. Et le Saint-Esprit est l'élément par lequel Dieu me scelle. Je suis scellé. Donc, je suis propriétaire de Dieu. Mon frère, tu es propriétaire de Dieu. Enfin, tu es une propriété plutôt. Tu es une propriété de Dieu. Donc, une propriété. Tu es une propriété parce que ce qui est scellé appartient à une seule personne. C'est au destinataire. Est-ce qu'on réalise que c'est une bénédiction? Je suis scellé du Saint-Esprit. Et puis, il dit, qui avait été promis et qui constitue le gage. Vous souvenez la garantie. Alléluia. Quand vous partez en banque, que vous voulez avoir de l'argent, on vous dit, messieurs, quel est votre garant? Quelle est votre garantie? N'est-ce pas, je connais le problème parce qu'il y a eu les subprimes où les gens pouvaient aller prendre des crédits sans avoir trop de garantie. Et puis, bah, ça donne ce que ça donne la crise financière mondiale et partie des États-Unis. Les questions immobilières, puisqu'on avait pris beaucoup de. Pour aller prendre des crédits partout, pour aller vers les maisons. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus le possibilité de rembourser. Et ça donne quoi? Ça donne une crise. Ça donne une crise financière et qui est devenue après une crise économique mondiale. Simplement. Ça veut dire que logiquement, on ne peut pas aller dans une banque prendre de l'argent sans avoir de garantie. Sinon, il a dit à la banque, donnez-moi 100 milliards. Je vais faire des grandes choses avec ça. Construire des hôpitaux, des universités, construire des églises partout, susciter des grosses affaires. Même s'ils m'avaient prié, est-ce qu'il y avait 100 milliards de la banque? Jamais. Pourquoi? Pourquoi ne me donneront pas 100 milliards de francs CFA? Pourquoi ne me donneront pas cet argent-là? Même 100 millions. Pourquoi ne me donneront pas cet argent-là? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de garantie. Si j'ai des garanties, alors la banque me donne 100 millions. Parce que j'ai un patrimoine important, j'ai des immeubles, j'ai des sociétés. J'ai quoi encore? J'ai des plantations. Donc, quand on évolue mon patrimoine, c'est peut-être 1 milliard. Oui, donnez-lui 100 millions facilement. Parce que j'ai un patrimoine. Et parce que, justement, je peux apporter la preuve à la banque que je suis capable de lui rembourser son argent. Sans garantie, vous n'avez pas de banque. Vous n'avez pas de crédit. Oh, le Saint-Esprit constitue ma garantie. Le Saint-Esprit en toi construit la garantie qui fait que si tu as des prières à Dieu le Père, tu es exaucé. Il faut dire Amen. Mon frère, vous avez la révélation. Vous n'êtes pas aussi choqué que moi. Vous avez la révélation. Le Saint-Esprit est le gage. C'est la garantie. Il est en moi, c'est la garantie. Quand je m'adresse au Père, je suis exaucé parce que la garantie est là. Je demande, je reçois. Gage sur l'héritage, notre héritage. Le Saint-Esprit. Et il dit en vue de la rédemption. Donc en clair, je serai sauvé. Nous sommes sauvés en esprit, par espérance. Le salut s'est manifesté pleinement plus tard, quand on sera plus de ce monde. Et le Saint-Esprit va constituer la garantie de mon salut éternel. Il faut dire Amen. Est-ce que j'ai entendu Amen? Le Saint-Esprit constitue la garantie de mon salut éternel. Quand le Seigneur va revenir, ou bien quand on va le ciel, ça ne sera pas par couloir. Hein? Le Saint-Esprit est le dépôt, la garantie qui nous donne l'accès au ciel. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Pour dire qu'en Christ, je rappelle ce qu'on a acquis comme bénédiction spirituelle. 1. On a la rédemption. 2, on a le pardon des péchés. 3, on a la connaissance du mystère caché de Dieu, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. On a l'accès au Père, puisqu'il a réconcilié le ciel et la terre par son sang. 4, 5, on a l'héritage de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. 5e ou 6e, nous avons été scellés. Oh! Scellés par le Saint-Esprit, qui est la garantie, le gage, notre rédemption, notre salut éternel. Donc en clair, quand tu es en Christ, tu acquis ces bénédictions spirituelles. Est-ce que ce matin, on peut te donner des bouts du Seigneur, je te remercie, parce que je sais les bénédictions spirituelles que tu m'as acquises. On n'a pas fini, mais je peux m'arrêter là parce qu'il est l'heure. Oui, c'est important quand on est chrétien, on insiste sur cela. Que nos cœurs soient ouverts sur cela, nos yeux soient ouverts sur cela. Et qu'on sache ce qu'on a acquis, afin qu'on ne soit plus là, les gens qui ont peur, qui se baladent partout. Non, en Christ, j'ai acquis des bénédictions. Je les proclame, je les annonce, parce que je sais qui habite en moi. Est-ce qu'on peut ensemble se donner des mots, s'il vous plaît, parce qu'on est là. On va dire merci au Seigneur pour la rédemption acquise en Christ. Merci au Seigneur pour le pardon des péchés. Quelqu'un n'a-t-il pas encore accepté le Seigneur que ce matin, ce soir, son cas? Quelqu'un a-t-il été dans l'iniquité? Ce matin, je confesse, je lui pardonne. Le pardon est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. La rédemption est une bénédiction de Dieu. Avoir la connaissance de Christ en soi, Christ habite en nous, c'est une bénédiction de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, les grands rois, les grands puissants veulent avoir cette grâce et l'ont pas. Savoir qu'on est scellé par le Saint-Esprit, qui est en nous le gage, le salut éternel, c'est une grande bénédiction qu'on ne peut même pas vendre. On peut pas, c'est pas voler, ce n'est pas possible. C'est un trésor que nous avons. On va remercier Dieu pour cela. Prions tous ensemble ce matin.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.